Le risque est un besoin essentiel de l'âme. L'absence de risque suscite une espèce d'ennui qui paralyse autrement que la peur, mais presque autant. D'ailleurs, il y a des situations qui, impliquant une angoisse diffuse, sans risque précis, communiquent les deux maladies à la fois. C'est le début ce lundi, chers auditeurs, d'une semaine sur la philosophe Simone Veil, à l'occasion, mais ce n'est qu'un prétexte, du centenaire de sa naissance. Demain, mardi, les nouveaux chemins de la connaissance accueilleront Robert Chenavier pour discuter de ce que Simone Veil dit de la condition ouvrière, de l'engagement syndical et du marxisme. Mercredi, nous parlerons de la guerre d'Espagne et du nazisme en compagnie de Bertrand Saint-Cernin. Jeudi, c'est de la pesanteur et la grâce qu'il sera question avec Florence de Lucie et Dominique Bourrel. Vendredi enfin, nous reviendrons sur la thématique de l'enracinement dans l'œuvre de Simone Veil en compagnie de Sylvie Courtine-Denamy et Martin Stephens. Mais ce lundi, ce soir, tout de suite et maintenant, c'est avec un grand plaisir que j'accueille Laure Adler, désormais biographe et portraitiste de Simone Veil, puisqu'elle signe chez Actes Sud un texte intitulé « L'insoumise Simone Veil » et Sylvie Veil, la nièce de Simone, à qui l'on doit un excellent livre intitulé « Chez les Veil, André et Simone » paru en 2009 dans l'excellente maison d'édition Buchet-Chastel. Laure Adler est avec nous dans le studio 167 de la maison de Radio France. Bonjour et bienvenue, Laure Adler.
Bonjour, Raphaël.
Bonjour. Sylvie Veil est en duplex avec nous de New York. Est-ce que vous m'entendez, Sylvie ?
Je vous entends très bien. Ouais, bonjour.
C'est parfait. Et bien, bienvenue à vous et bienvenue à toutes les deux. On va, en guise d'introduction à la pensée de Simone Veil, se promener un peu dans son existence, ce qui n'est pas à la trahir d'ailleurs, puisque Simone Veil faisait de l'expérience et de la vie la matière même de la pensée. Et je voudrais qu'on parte ensemble d'une question que tout le monde se pose, ou en tout cas d'une affirmation que les gens ont tendance à brandir un peu hâtivement sur la sexualité de la Vierge Rouge, comme on dit. Vous notez, Sylvie Veil, dans ses carnets, ce passage, à la page 42 de votre livre, « Sexualité », donc c'est Simone qui parle ou qui écrit. « Sexualité », dit-elle, « il y a un mécanisme dans notre corps qui, quand il se déclenche, nous fait voir du bien dans des choses d'ici-bas. Il faut le laisser rouiller jusqu'à ce qu'il soit détruit. » Alors, première question que je vous pose à toutes les deux, comment faire de cet être qui se voulait en un sens asexué ou qui voulait laisser rouiller la sexualité en elle et qu'on a surnommé la Vierge Rouge, peut-on en faire en même temps une grande vivante, Sylvie Veil ?
Je crois qu'on peut en faire une grande vivante. Cette phrase de ma tante me pose problème d'une certaine manière. Ça semble tellement dur comme phrase, alors que je pense que Simone est quelqu'un qui mourait d'envie d'être aimé, d'être l'objet de l'amitié de quelqu'un. Et quand elle parle d'amitié, elle parle d'un sentiment très intense.
Elle se méfie en même temps de l'amitié.
Elle se méfie énormément. Elle pense, à la fois, elle en a envie, et d'autre part, je crois qu'elle craint que ce ne soit une illusion. Donc il y a les deux mouvements parallèles.
Laure Adler.
Oui, je crois que Sylvie a tout à fait raison. On a plusieurs exemples dans la vie de Simone Veil de désir de trouver un compagnonnage, pas seulement amical, mais je crois qu'on peut dire érotique. Il y a notamment cette séquence quand elle est à Normal Sup où elle reçoit des lettres anonymes d'un camarade de classe non identifié, donc il lui fixe un rendez-vous dans un bistrot.
Oui.
Elle y va avec sa maman, donc votre grand-mère, ma chère Sylvie. Et elle a rendez-vous avec ce jeune homme qui éclate de rire en face de Simone Veil en lui disant « Mais comment peux-tu croire que je puisse tomber amoureux de toi ?» Ça, c'est un premier exemple. Il y en a beaucoup d'autres.
Et elle pleure, la pauvre.
Et elle pleure et elle se fait consoler par votre grand-mère. Il y a beaucoup d'autres exemples dans sa vie. Notamment, je me souviens de séquences qu'elle note dans son carnet intime quand elle se promène, je crois, en Italie et qu'elle tombe sur des jeunes gens très beaux. D'ailleurs, quand les jeunes gens sont très beaux, elle le note immédiatement et elle se lie d'amitié avec un grand gaillard, et puis finalement l'histoire ne dure pas. Une autre histoire de ce type se passe au Portugal. À un moment, elle dit à un de ses camarades, alors à un ami à lui, elle lui dit qu'elle aimerait tant tomber amoureuse, et l'autre lui répond très méchamment, je trouve, très très méchamment, « Mais comment crois-tu qu'on puisse tomber amoureuse de toi ?» Et elle éclate aussi en larmes.
Oui,
donc on
oui.
voit bien qu'il y avait quand même une sensualité, un côté solaire chez votre tante, Sylvie, et que les clichés ont énormément, finalement, déformé la figure tutélaire, la grande intellectuelle qu'est Simone Veil, oui. car on peut être à la fois intellectuelle, à la fois belle et sensuelle.
Oui, mais Laura Adler en même temps, Laura Adler et Sylvie Veil en même temps, ces clichés que tout le monde répète, c'est pas parce que tout le monde les répète qu'ils sont faux pour autant. Je lis un passage, hein, Laura Adler, que vous citez dans votre livre. C'est une de ses élèves, Simone Veil était enseignée la philosophie, une de ses élèves lui écrit pour lui demander des conseils sur son avenir, dites-vous, sa conduite de vie et sa vision de l'amour. Réponse de Simone Veil. En ce qui concerne l'amour, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais au moins des avertissements. L'amour est quelque chose de grave, où l'on risque souvent d'engager à jamais et sa propre vie et celle d'un autre être humain. On le risque même toujours, à moins que l'un des deux ne fasse de l'autre son jouet. Mais en ce dernier cas, qui est fort fréquent, l'amour est quelque chose d'odieux. Voyez-vous, l'essentiel de l'amour, cela consiste en somme qu'un être humain a un besoin vital d'un autre être, besoin réciproque ou non, durable ou non selon les cas. C'est pourquoi l'idée de rechercher l'amour pour voir ce que c'est, pour mettre un peu d'animation dans une vie trop morne, me paraît dangereuse et surtout puérile. Sylvie
Veil. Elle n'a pas tort.
Mais elle a peut-être tort de l'avoir mis en pratique alors.
Oui, vous savez, elle a eu tant à faire. Je crois qu'elle n'a pas eu vraiment beaucoup de temps à consacrer à une vie amoureuse, mais je crois aussi que c'était un principe. Je crois aussi qu'il y a eu un élément de peur. Il y a un incident quand elle est à, je crois que c'est à Saint-Étienne, pour des réunions syndicales. Elle décide de prendre un train de très très bonne heure. Elle se relève à 4 heures du matin. Et un camarade, un syndicaliste et un gars qu'elle aime bien, qui trouve que c'est ridicule que cette fille qui s'est couchée à 2 heures se relève à 4 heures pour repartir à une autre réunion quelque part d'autre, et il essaye de lui barrer la porte. Enfin, il ouvre les bras et lui dit « Mais voyons, Simone, recouche-toi. » Et elle lui fend qu'une claque, pensant qu'il lui fait des avances. Donc, il y avait aussi une peur en elle du rapport physique. Elle a peut-être pensé qu'il voulait l'embrasser. Oui, apparemment, elle a pensé qu'il voulait l'embrasser. Elle a eu très peur. Mais elle s'intéresse beaucoup aux jeunes ménages qu'elle connaît. Elle s'intéresse énormément, et Laure en parle très bien dans son livre, à ce ménage de Souvarine et de Colette, enfin, dite plus tard Laure Bataille.
Colette Peignot, oui.
Oui, et Simone a dépensé des trésors d'énergie pour les conseiller, essayer de les remettre ensemble. Donc, elle s'intéressait beaucoup à cet aspect de la vie.
Alors, elle s'intéressait beaucoup à cet aspect de la vie. Et en oui. même temps, on a le sentiment que Simone Veil, qui passait son temps, et on va travailler dessus toute cette semaine, à essayer de rechercher le réel dans ce qu'il a de plus âpre et rugueux. Hein. Elle faisait d'ailleurs de l'âpreté oui. et de la rugosité l'indice de la réalité. Elle cherche le réel dans ce qu'il a de plus âpre et de rugueux. Et en même temps, l'hyper-réalité ou la réalité véritable, oui. elle la trouve dans un autre amour, un amour divin dont Laure Adler écrit qu'un jour il entre dans votre vie et c'en est fini. D'ailleurs, on ne sait pas si la biographe parle d'elle-même ici ou de son objet. Laure Adler.
J'ai jamais eu la chance de faire l'amour avec le Christ, moi.
Non.
J'aurais bien aimé, hein. Ça doit être planant, peut-être beaucoup plus planant et sûrement beaucoup plus planant que de faire l'amour avec des hommes. Mais ça, c'est arrivé très tard dans sa vie, qui fut très courte, puisqu'elle est morte à l'âge de 34 ans. Vous le rappeliez, en fait, son centenaire en ce moment même. Mmh. Et donc, ça s'est arrivé vraiment à la fin de sa vie. Avant, ce côté expérimentation de l'amour sous toutes ses formes, c'est vrai, alors, on ne va pas faire de la psychanalyse à la mort moelle-neuve, mais je crois, Sylvie, que vous êtes d'accord là-dessus. Votre grand-mère, donc, a eu... Votre propre père, donc c'était le frère aîné de Simone, André, qui était déjà un génie. Elle a eu ensuite Simone, et votre propre grand-mère appelait Simone Simon. Donc déjà, quand on a une mère qui vous appelle Simon, c'est pas si facile que ça que de se frayer, se constituer une identité sexuelle.
Sylvie Veil.
Mais ce n'est pas tout à fait clair qui a commencé le jeu du Simon.
Oui, parce que vous racontez, Sylvie Veil, que c'est Simone elle-même qui signait ton fils
oui.
Simon.
Oui, je crois que c'est Simone qui a joué qui a commencé le jeu. Cependant, et qui a commencé à signer ton fils Simon. Cependant, vous avez parfaitement raison, Laure, de dire que ma grand-mère a voulu, sinon masculiniser ma tante, du moins là, ne pas la féminiser. Enfin, elle écrit tant et plus à sa confidente, qui est l'institutrice des enfants. J'ai horreur des petites filles, de leurs petites manières. Je veux que ma fille suive son frère. Je veux je ne veux pas qu'elle fasse partie de ces petites filles maniérées. Cependant, elle l'habille très, très joliment et toutes sortes de photos d'enfance et même d'adolescence en témoignent.
C'est là qu'il faut dire que votre tante était belle. Parce qu'il y en a ras-le-bol de dire que c'était une bigote, oui, une dévote, oui, et une moche.
Oui, et il y a un petit incident que je voudrais justement raconter pour équilibrer un peu tous les incidents où des garçons se sont moqués d'elle. On dit qu'on ne pouvait pas tomber amoureux d'elle. Quand elle était en cours à l'école normale, un jour, elle a, en écoutant le professeur, elle a enlevé ses lunettes. Je crois que c'était peut-être le cours, enfin, je ne sais pas le cours de qui c'était, mais elle enlève ses lunettes et écoutait apparemment d'un air enchanté ce que le professeur racontait. Et le garçon, le jeune homme qui était assis derrière elle, s'est exclamé assez bruyamment « Mais c'est qu'elle est jolie !»
On va écouter la voix de votre grand-mère, Sylvie Veil, donc la voix de la mère de Simone Veil, enregistrée en 1962. C'était dans Une vie, une œuvre, hein, diffusée dans Une vie, une œuvre sur France Culture déjà le 16 mars 89, dans lesquelles donc votre grand-mère lit quelques pages des carnets de Simone Veil qu'elle recopiait pieusement. Écoutez.
Ouvrez-nous donc la porte et nous verrons les vergers. Nous boirons leur eau froide où la lune a mis sa trace. La longue route brûle, ennemie aux étrangers. Nous errons sans savoir et ne trouvons nulle place. Nous voulons voir des fleurs. Ici, la soif est sur nous. Attendant et souffrant, nous voici devant la porte. S'il le faut, nous romprons cette porte avec nos coups. Nous pressons et poussons, mais la barrière est trop forte. Il faut languir, attendre et regarder vainement. Nous regardons la porte. Elle est close, inébranlable. Nous y fixons nos yeux. Nous pleurons sous le tourment. Nous la voyons toujours. Le poids du temps nous accable. La porte est devant nous. Que nous sert-il de vouloir? Il vaut mieux s'en aller, abandonnant l'espérance. Nous n'entrerons jamais. Nous sommes là de la voir. La porte, en s'ouvrant, laissa passer tant de silence que ni les vergers ne sont parus, ni nulle fleur. Seul l'espace immense où sont le vide et la lumière, du soudain présent de part en part, combla le cœur et lava les yeux presque aveugles sous la poussière.
Laure Adler et Sylvie Veil sont nos invités aujourd'hui dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi pour évoquer la figure, la trajectoire, l'existence fulgurante et brève de Simone Veil, morte à 34 ans et qui aurait 100 ans aujourd'hui. Sylvie Veil, ce qui est tout à fait stupéfiant dans l'extrait qu'on vient d'entendre,
oui,
la voix de votre grand-mère,
oui,
c'est la tristesse infinie,
oui,
insondable avec laquelle,
oui,
elle lit ce texte.
Oui.
Et on dit souvent que sa mère disait de Simone qu'elle aurait tellement préféré qu'elle soit heureuse.
Oui, mais je ne peux pas vous dire comme je suis émue d'entendre cet enregistrement de la voix de ma grand-mère, d'abord parce que c'était ma grand-mère et que je l'adorais. Mais d'une part, je pense, d'après tout ce qu'on m'a dit dans la famille, qu'elle a une voix très très proche de celle de Simone. Je crois que Simone, lisant le texte, l'aurait lu de façon tout à fait semblable, avec cette voix monocorde. Et d'autre part, oui, la tristesse de ma grand-mère. J'ai toujours vu ma grand-mère et mon grand-père également tristes. On a peu dit à quel point la mort de leur fille a brisé ces deux vieux parents. Et ils passaient leur temps à copier les cahiers de ma tante dans des grands cahiers noirs. Ils étaient assis à une table et c'est ça qu'ils faisaient toute la journée. Quand j'étais petite, je pensais que mes grands-parents avaient un métier. Leur métier, c'était de copier tout cela. Et parfois, effectivement, ils se lisaient des passages tout haut l'un à l'autre. Et c'était toujours extraordinairement triste.
Oui, ce qu'il faut peut-être expliquer aux auditeurs, parce que hélas, Simone Veil n'est pas assez connue, et j'espère que ce centenaire permettra à de nombreuses personnes de lire les textes de Simone Veil qui nous vont droit au cœur, comme nous l'a restitué tout à l'heure sa propre mère, Selma Veil. On voit bien à quel point il y a de la poésie qui est entrelacée avec de la philosophie, avec de la méditation spirituelle. Ces trois composantes sont consubstantiellement liées et je pense que les textes de Simone Veil nous parlent non seulement d'aujourd'hui mais nous permettent d'entrevoir nos lendemains qui déchantent. Mais pour parler de votre propre grand-mère...
C'est étrange quand même, Laure Adler, parce que vous en faites une figure de la gauche et c'est celle qui nous permet d'entrevoir que les lendemains déchantent. Pourquoi pas ?
Ben oui, mais par rapport à la déréglementation financière, par rapport à la perte des valeurs...
Elle était très lucide, très lucide.
Elle a tout cartographié quand elle travaillait auprès du général de Gaulle qui lui avait demandé de pouvoir entrevoir l'avenir de la France. Et Simone faisait partie de ces résistantes qui pensaient que la France serait victorieuse. Elle a donc écrit ce texte d'une seule coulée, d'un seul jet dont vous allez parler au cours de vos chemins de la connaissance, l'enracinement... Et je peux vous assurer que ce texte, quand vous le lisez, vous avez l'impression que vous pouvez l'éplucher page à page et pouvoir l'appliquer pour demain, après-demain, dans 2 ans, dans 3 ans et dans 4 ans. Donc ça, c'est pour l'aspect prophétique politique. Mais je voulais en revenir à l'aspect familial. Ce qui est extraordinaire et ce qui est romanesque, c'est que votre propre grand-mère, Sylvie, a recopié les carnets de votre propre tante, Simone... Oui. Il faut savoir quand même et dire à nos auditeurs que Simone Veil, qui est morte à l'âge de 34 ans, a passé sa vie à écrire jour et nuit dans des petits carnets. Et que quand elle est morte à 34 ans, elle ignorait absolument qu'un jour ses carnets seraient publiés. Et c'est
absolument
uniquement grâce à l'obstination de sa propre mère qui, après son exil de New York, au moment où elle est retournée en France... est allé voir tous les amis de Simone. Vous imaginez un peu, tous les amis de Simone en disant « Dites-moi, vous avez été lié avec ma fille, est-ce que vous avez gardé des carnets ?» Ensuite, elle a collationné et collecté tous ces carnets. Oui. Et ensuite, elle est allée voir Albert Camus, qui a pris l'ampleur de l'œuvre. Donc Simone n'a jamais su, jamais, 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 qu'un jour elle serait publiée.
Alors justement, on est avec Simone Veil dans un cas de figure tout à fait passionnant, comme Rimbaud, comme Kafka, d'auteurs absolument géniaux qui n'écrivaient pas en pensant à leur postérité ni à leur destinataire. Donc chez qui, évidemment, du coup, la sincérité de la démarche est tout à fait incontestable, hein, Sylvie Veil.
Oui, absolument.
Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. vous êtes d'accord ? Ah ben justement, écoutez, on va entendre un de ces textes. On va en entendre plusieurs d'ailleurs. On va commencer par le premier qu'a choisi Adèle Van Rett. Pour vous, chers auditeurs, c'est un extrait du temps. Et vous allez voir comme elle en parle. C'est aussi bien écrit que difficile à comprendre d'ailleurs. Écoutez.
Ce qui existe comme tel n'est pas intéressant. Ou pour mieux dire... De tout ce que nous croyons composer l'univers, rien n'existe que ce que chaque homme peut, d'une certaine manière, trouver en cette condition qui lui est imposée, comme dans le creux de sa main. Tout ce que nous pouvons saisir, nous le saisissons, non certes en nous-mêmes, car il n'y a rien en nous, mais d'où nous sommes. Avant donc de me demander ce qu'est le monde, ou même s'il est un monde, je me demande non pas si je suis, car je le sais, non pas non plus ce que je suis, mais plutôt comment je suis, sous quelles conditions j'existe. et je trouve aussitôt que ma manière d'exister se définit à la fois par une certaine puissance de moi sur moi et par une certaine impuissance de moi par rapport à moi.
L'homme ne connaît pas le monde, il ne sait pas ce qui est et ne s'y intéresse point. Quelques-uns, certes, qui imaginent un dieu, un démiurge, législateur du monde, quelques-uns aussi qui pensent être athées, se mettent en quelque sorte à la place de Dieu, légiférant, assignant au nom d'études qu'ils nomment théologiques ou physiques ou chimiques ou mathématiques des règles à l'univers. Ou plutôt, ils essayent de penser ces règles telles qu'elles ont été assignées aux choses, ils ne savent par qui. Comme un esclave qui toujours chercherait à penser l'ordre de la cité comme le pense le roi qui a créé cet ordre et le maintient. Mais le commun des hommes s'intéresse peu à ces conjectures. L'homme n'aspire à connaître que sa propre condition. C'est étonnant, non, Sylvie Veil, Laura Adler, ces textes de Simone Veil, à chaque fois qu'on les lit, on a le sentiment de comprendre ce qu'elle raconte, et on serait bien en peine pourtant de les expliquer, Laura Adler.
Je crois qu'effectivement, on a un rapport, en tout cas, moi j'ai un rapport.
Ces textes ont d'une absolue sincérité, sans destinataire.
Mais justement, ça nous atteint droit au cœur, et moi je pratique la lecture des textes de Simone Veil comme une sorte de petit cadeau caché, c'est-à-dire que le matin, je peux lire un paragraphe, même trois phrases, et je pars dans la journée faire mon travail, comme tout le monde, mais j'ai mon petit cadeau à l'intérieur de moi, parce que je sais que, même si je ne le souhaite pas, et c'est ça qui est absolument incroyable avec l'œuvre de Simone Veil, ces phrases vont cheminer à l'intérieur de moi. Ces phrases, je vais continuer à les ressasser, comme dirait Nietzsche, à les méditer, ça va me tomber dessus et ça va me faire voir ou entrevoir la vie autrement.
Nietzsche employait la métaphore de la rumination. Oui. Hein, il nous comparait à des bovins.
Oui, oui, mais je pense que la rumination, le ressassement des textes de Simone Veil, c'est quelqu'un qui nous aide à vivre. C'est quelqu'un qui nous fait comprendre ce que ça veut dire vivre, respirer, être au monde.
Alors, est-ce
que
c'est vraiment une aide? Est-ce que la meilleure façon d'aider à vivre, ça n'est pas justement de faire oublier ce qu'est la vie? Laura Adler, Sylvie Veil, qu'en pensez-vous?
Sylvie, à vous.
Avouez, Sylvie.
Oublier, non, mais je ne peux pas vraiment dire que Simone m'aide à vivre, étant donné que moi, mon projet...
Oui, parce que ce n'est pas l'impression qui ressort de votre livre.
Ça a été de m'éloigner d'elle. Mais naturellement, j'ai lu beaucoup de Simone Veil. Ce que je dois avouer, c'est effectivement, il y a des phrases magnifiques, des pensées magnifiques qui vous vont droit au cœur, comme dit Laure, et qui semblent lumineuses et qui ont l'air de tout expliquer. Elle se prête énormément à la coupure, au découpage en aphorismes, enfin au genre La Rochefoucauld. On peut faire des collections de phrases extraordinaires de Simone Veil. Je pense aussi, enfin mon point de vue, moi je suis littéraire, je ne suis absolument pas philosophe, et je pense que c'est une poète, Il m'arrive de lire un paragraphe de Simone, de trouver que très franchement, ça ne veut rien dire. Cependant, j'avoue en toute humilité que je ne suis pas philosophe, mais que c'est magnifique, que c'est magnifiquement écrit et que c'est extrêmement poétique. Alors, dire qu'il faut nous mentir pour nous rendre la vie plus belle, non, je n'irai pas jusque-là.
Oui, mais en même temps, quand on fait preuve d'une sincérité à toute épreuve,
comme s'il vivait et le vrai,
c'est dur pour l'entourage, c'est dur pour soi. Alors évidemment, paradoxalement, on peut y retrouver un certain cheminement.
Mais elle s'en fout d'elle-même, je pense.
On va y venir. Une certaine forme de joie, d'ailleurs, cette espèce de rapport au monde, de conscience aiguë du monde. On peut considérer, d'ailleurs, à ce sujet, que chez Simone Veil, l'adversaire, si j'ose dire, ça n'est pas la joie qu'elle trouve par instant, vous l'avez dit, et puis qu'elle trouve définitivement dans l'amour divin, celui donc après lequel c'en est fini, comme vous dites, Laura Adler. Mais l'ennemi, finalement, l'adversaire, c'est pas tellement la joie, c'est plutôt le bonheur, non? Qu'en pensez-vous, Sylvie Veil?
Oui, peut-être. Enfin, le bonheur au sens...
La suspension de la douleur, en somme.
Oui, le bonheur comme chose commune. Mais
bourgeoise, qu'elle est très anticonformiste.
Oui, absolument. En même temps, elle me vouait, moi, à une normalité extraordinairement bourgeoise. Mais,
parce qu'elle a voulu vous faire baptiser, Sylvie, c'est pour ça que vous dites
ça? Non, elle ne parle que de mon mariage. Elle espère me revoir avant mon mariage. Non, je pense qu'elle me voulait tout à fait normale, faisant tout ce qu'elle n'avait pas fait d'une façon extraordinairement normale.
Mais est-ce que Simone Veil... Allez-y, pardon.
Je voulais revenir sur la notion de joie et de bonheur et de douleur. Il y a tout de même des moments où elle crie, en fait, dans son cahier, elle crie par écrit qu'elle aimerait qu'on la débarrasse de cette extraordinaire douleur qu'elle ressent dans la tête au point de jonction entre le corps et l'âme. Mon grand-père l'a emmenée voir de grands médecins, de grands spécialistes des sinus, des oreilles, de
dans l'Europe entière.
Oui, pour essayer de résoudre ce problème de cette douleur. Donc elle n'était pas contre qu'on la soigne. D'autre part, elle avait de grands moments de joie et ça c'est quelque chose qu'elle partageait avec mon père. De contemplation de la montagne ou d'un magnifique paysage. Gustave Thibon raconte comment il la trouvait assise sur un banc à regarder le paysage quand elle est en Italie. Ses lettres d'Italie sont quelque chose de merveilleux. Elle va au concert tous les soirs, elle va au théâtre, elle va dans des églises pendant la journée, elle regarde Giotto, elle regarde... Et elle est remplie de joie. Et ses lettres d'Italie sont superbes. Donc ce n'est pas non plus quelqu'un qui chemine à de douleur et de refus du bonheur 24 heures sur 24.
On ne le dira jamais assez. Celle qu'on a enfermée dans la cage du malheur, de la souffrance, de la volonté du néant, était un être solaire, aimant rire, discuter, faire de l'humour, nager, prendre le soleil, écouter de la musique, aller au théâtre. Ah, si j'avais eu envie, dira-t-elle peu de temps avant de s'éteindre, j'en aurais consacré une exclusivement au théâtre. Connaissait par cœur des livrets d'opéra, aimait jusqu'à la folie l'Italie, s'absorbait dans la beauté d'un paysage ou d'une peinture. Bref, une dévoratrice de tout ce que pouvait lui offrir la bonté des êtres et la beauté du monde.
Oui.
J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma.
Si je cherche à définir cette impuissance, la première contrainte qui me vient à la pensée, celle aussi qui est le plus souvent chantée par les poètes, le plus souvent rappelée dans les discours quotidiens, c'est le temps. J'existe dans le temps, c'est-à-dire toujours hors de moi. Je ne suis plus ce que je viens d'être, je ne suis pas encore ce que je vais être, et cependant ce que j'ai été, ce que je serai, c'est bien moi. Mais qu'est-ce à dire ? Car pour que je me sache hors du passé, hors de l'avenir, pour que je sente la porte fermée des deux côtés. Encore faut-il que je pense ce que j'ai été, ce que je vais être. Et cela même ne va pas de soi. Pour que la condition du temps ait un sens, il ne faut pas seulement qu'elle se fasse sentir à moi quand j'en forme l'idée, mais qu'elle pèse sur chacun des actes par lesquels s'exprime mon existence. Or, il en est ainsi. Car il est une loi à laquelle je me heurte, que j'éprouve du moment que je m'éprouve moi-même, et qui suffit peut-être par elle-même à définir ma condition. C'est la loi par laquelle rien pour moi n'est immédiat. Exister pour moi, c'est agir, pourvu que ce mot soit pris en son sens plein. Or, dès que j'agis, il m'apparaît que je ne me suffis point.
C'est la voix d'Anne Brissier qui lit ici, qui interprète, il faudrait dire, tellement c'est bien lu et bien travaillé. Donc Anne Brissier qui nous accompagne souvent au Nouveau Chemin de la Connaissance, qui interprète ici encore une fois un extrait du Temps de Simone Veil. Dans ce rapport au temps, vous avez dit, Laure Adler, tout à l'heure, que Simone Veil, on est passé un peu rapidement dessus, il faut revenir sur ce sujet. Vous avez dit que Simone Veil ne s'intéressait pas à elle-même. Ce qui va d'ailleurs de pair avec la volonté d'écrire pour écrire, ou d'écrire selon soi-même et non pas selon la perspective, la représentation d'un destinataire. Elle ne s'intéresse pas à elle-même. Est-ce que ça ne lui vient pas de cette conscience aiguë du temps, de sa condition temporelle qui fait que elle-même, à chaque instant, elle diffère d'elle-même. Elle fait l'épreuve de l'impossibilité d'avoir une identité et d'être tout entière prise par le temps.
Si, tout à fait. Elle fut l'élève d'Alain, qui l'a beaucoup imprégnée intellectuellement. Et c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le temps qui lui est imparti. Elle sait qu'elle est mortelle, elle sait qu'elle a à en mourir. Son problème n'est pas la mort. Mais si elle ne s'intéresse pas à elle-même, je crois, et Sylvie me dira si c'est vrai ou faux, c'est parce qu'elle s'intéresse aux autres, ou au grand autre avec un grand A. Et très jeune, on voit très très bien que dès qu'elle peut exercer son métier d'enseignante de philosophie, elle va, où qu'elle soit nommée, s'intéresser aux plus humbles, aux plus opprimés, alors que ce soit les ouvriers où elle sème la grève, la révolution, les manifestations, elle est porte-parole des grèves ouvrières dans les villes où elle est nommée prof de philo.
Pardonnez-moi, la révolution, non.
Si, elle essaye de semer la révolution.
On en reparlera alors, allez-y.
Elle essaye de semer la révolution à l'intérieur des esprits. D'autre part, elle fait quelque chose que je trouve absolument admirable, alors qu'elle est très très jeune, elle a 21-22 ans. Elle a à peine 2 ou 3 années d'écart avec ses propres élèves. Elle dit, elle pense, et elle mettra pendant toute sa vie en œuvre ce qu'elle pense, à savoir que chaque être humain est égal à un autre. Nous sommes tous égaux.
Oui.
Donc même si nous n'avons pas eu la possibilité de faire des études, nous pouvons toujours, à un moment, quel que soit notre âge ou notre manque d'éducation, si le sort vous a obligé à être ouvrier à l'âge de 13-14 ans, ce qui était possiblement le cas au moment où elle vivait, eh bien, elle a fait, pendant qu'elle était prof, des cours du soir et tous les week-ends, quand elle n'enseignait pas la philo à ses élèves, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle enseignait oui. les connaissances et les humanités aux ouvriers qui voulaient bien l'écouter. Et elle avait un succès fou. Et moi, je trouve que cette possibilité de déployer son intelligence vers tous les gens qui ont soif de connaissances pour pouvoir construire sa propre identité, c'est quelque chose qui force le respect et l'admiration encore aujourd'hui.
Sylvie Veil.
Oui, c'est tout à fait vrai. Quand elle était professeure dans les lycées, effectivement, elle se traînait, ma grand-mère l'écrit à mon grand-père, Simone a pris le train avec 20 kilos de livres dans son sac pour aller faire cours à des ouvriers dans une autre ville. Elle donnait énormément de sa personne et elle s'intéressait énormément à ses élèves également. Elle avait essayé de leur faire imprimer elle-même des textes et les élèves l'ont pas mal déçue parce que les élèves étaient des petites bourgeoises du puits qui n'avaient pas envie de se salir les mains avec de l'encre d'imprimerie. Mais Simone, il y avait un refus de penser à elle-même. Enfin, c'était un refus qui était poussé très très loin, toujours pendant ses années de lycée, ce n'est que pour donner un exemple, où elle était professeure au puits et à Bourges. Ma grand-mère venait la voir et se désespérait du fait que Simone refusait d'avoir le chauffage là où elle habitait, parce qu'elle pensait qu'il y avait des gens, et en particulier des chômeurs, qui n'avaient peut-être pas le chauffage. Elle refusait tout confort personnel. Donc ça allait encore plus loin que de ne pas penser à elle, il y avait presque une façon de négative de penser à son propre confort. Elle choisissait ardemment l'inconfort.
Mais alors justement, est-ce que ce choix de l'inconfort, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de louche justement dans ce choix de l'inconfort, presque un désir de sainteté pour le coup? On a parlé de sa sincérité incontestable, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'insincérité dans cette volonté? Je pressentais votre réponse, hein, Sylvie Veil, mais je vous pose quand même la question.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'insincérité dans cette volonté de dénuement? Est-ce qu'elle ne se représente pas finalement elle-même comme finalement telle qu'on se les représente? Et ensuite, c'est-à-dire, en somme, celle qui ne supporte pas la douleur d'autrui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez elle dans cette... Quel est le goût de l'altérité? Qu'elle ne supporte pas la douleur des autres? Parfait, mais qu'elle aille jusqu'à s'infliger à elle-même
les douleurs. Je voudrais vous répondre. D'une part, je ne crois pas qu'une fille de 21-22 ans qui refuse d'avoir le chauffage parce que les chômeurs n'ont pas de chauffage puisse être non sincère. Elle est absolument sincère dans la fougue de sa jeunesse et d'une jeunesse généreuse. Elle ne pense pas du tout à être sainte ou à jouer la sainte. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière dans notre conversation. On a prononcé le mot théâtre. On a évoqué l'amour de Simone pour le théâtre. Alors, plus tard, je pense tout de même, quand elle arrive pour voir des amis et qu'il fait froid et qu'elle est pieds nus dans des sandales et qu'elle a une espèce de robe de moine, tout à fait bizarre, il y a des témoins qui la décrivent, là, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a peut-être un certain goût pour le théâtre. Ma grand-mère avait un goût et un talent fantastique pour le théâtre. Elle faisait du chant, d'ailleurs. Elle déclamait de façon extraordinaire. Et je ne parlerai jamais de non-sincérité concernant Simone, et surtout cette jeune Simone. Mais je parlerai peut-être d'un certain goût pour le théâtre, pour la mise en scène. Quand elle dort une nuit sous, où elle dit à son amie Simone Pétremant qu'elle va dormir sous la table dans la cuisine, parce qu'elle ne veut jamais dormir dans des lits, et Simone Pétremant, horrifiée, lui dit « Mais enfin, et si j'entre dans la cuisine et que je te trouve là, allongée sous la table de la cuisine, qu'est-ce que je vais te dire ?» Et Simone lui dit « Eh bien, tu me diras bonjour chien. » C'est du théâtre.
Oui, on retrouve cette anecdote d'ailleurs dans votre livre, hein, Laure Adler. Plus jamais, dites-vous, elle ne dormira dans un lit. Ce n'est qu'à l'hôpital de Londres qu'elle n'aura pas d'autre choix que de s'allonger sur un lit de fer. Alors, cette question de la sincérité, de l'insincérité et du théâtre. En ce qui me concerne, Sylvie Veil, je ne pensais pas autre chose en vous parlant d'insincérité. Le mot est peut-être un peu fort, mais disons peut-être mise en scène, Laure Adler.
Je crois qu'elle n'a jamais joué à être autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire quelqu'un qui était débordé par ses propres possibilités. J'ose le mot, même si vous êtes sa nièce, Sylvie, de l'autre côté de l'océan, dans un New York, dans les tourbillons de neige et de la tempête.
Je pense
que votre tante était un génie.
Bien sûr.
Qu'elle le savait quand même un peu. Qu'elle savait que ça débordait d'elle tout le temps.
Qu'effectivement,
il y avait cette migraine atroce qui rendait son corps en convulsion. Et tout à l'heure, vous avez dit cette chose admirable qu'elle dit elle-même. Son point de jonction entre l'âme et le corps, eh bien, elle l'a souffert dans son corps, dans son être et dans sa chair. Que d'autre part, on ne peut pas penser qu'elle a été insincère. Pour moi, elle est l'intellectuelle du XXe siècle qui a voulu comprendre les choses les plus essentielles en tant qu'intellectuelle en voulant éprouver dans son propre corps ce que ça voulait dire penser. Et je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est quand elle est rentrée comme ouvrière aux usines Renault-Billancourt. Elle voulait parler du travail et de l'asservissement qu'impliquait le mot « travailler », travailler en plus à la chaîne. Et elle explique très bien dans ce livre admirable qui est disponible en poche, qui s'intitule « La condition ouvrière », que quand on est ouvrier, par définition, on est harcelé par des surveillants, on est payé à la pièce, on travaille dans de très mauvaises conditions, donc on ne peut pas penser sa propre condition. Donc par définition, vos propres enfants seront eux aussi des ouvriers. Pour moi, c'est l'intellectuel qui a quitté la tour d'ivoire des intellectuels du XXe siècle pour pouvoir expérimenter dans sa chair ce que ça voulait dire penser et pouvoir en penser.
Mais en même temps, Laure Adler et Sylvie Veil, quittant sa tour d'ivoire, Simone Veil, et c'est peut-être d'ailleurs tout son mérite, met en garde ses camarades, et d'ailleurs c'est tout le sens de son différend avec le marxisme, elle met en garde ses camarades, et l'expression est d'elle, hein, contre les espérances creuses qui réchauffent. Simone Veil, vous avez dit tout à l'heure qu'elle voulait semer la révolution. Simone Veil n'est pas révolutionnaire, elle ne cesse de dire que
elle est réformiste.
Eh bien, c'est pas la même chose que certaines
elle
formes
a d'abord été révolutionnaire.
Et oui, mais ensuite, elle ne cesse de dire que la révolution conduit au totalitarisme et que l'enjeu, ça n'est pas de sortir du travail, mais c'est d'adapter le travail à l'ouvrier. Elle veut discuter avec les patrons. Elle leur parle d'ailleurs assez courtoisement, non, Sylvie Veil?
Elle a une correspondance tout à fait intéressante avec un grand patron.
Non, mais je veux dire, on en fait une passionnariat, on en fait Rosa Luxembourg en général, c'est un autre malentendu.
Elle a admiré Rosa Luxembourg, et mais durant toute sa jeunesse, elle a été révolutionnaire. Il ne faut pas oublier qu'elle a été la première introductrice de Marx, qu'elle a beaucoup fait circuler l'œuvre de Marx, Le Capital, chez ses petits camarades de Normale Sup, et puis petit à petit, elle a vu les contradictions à l'œuvre de Marx.
Tout à fait.
Oui, mais justement, si on déconstruit le cliché de la Vierge rouge, asexuée, etc., etc., si on déconstruit le cliché de la Vierge, déconstruisons le cliché de la rouge également, non, Laure Adler?
Je pense que, comme tout être humain, elle a eu des évolutions, elle a commencé effectivement tout feu, tout flamme. Je pense que son dernier texte qu'elle a rédigé quelques mois avant de mourir détient en son sein des pépites révolutionnaires, notamment tout ce qu'elle dit sur la nécessité de la décolonisation au moment où on se trouve en pleine guerre. Et elle dit que l'avenir de la France se jouera par la décolonisation. Quand elle parle aussi des plus opprimés, quand elle parle de l'amélioration de la condition ouvrière, quand elle parle du respect et de la dignité qu'on doit aux travailleurs, quand elle dit la nécessité des syndicats pour pouvoir faire un équilibre avec le patronat, tout ça me paraît aujourd'hui encore révolutionnaire.
Ou réformiste, Sylvie Veil.
Mais comme elle est extrêmement honnête, et comme vient de le dire Laure, mais je ne peux que répéter que c'est quelqu'un qui évolue, et c'est même assez admirable. Elle commence effectivement marxiste, elle n'entre dans aucun parti, parce que ce n'est pas du tout son projet d'entrer dans un parti, mais elle fait partie de groupes marxistes. Elle est tout à fait, je pense, dans un esprit révolutionnaire, et pas seulement réformiste, qui semble un petit peu tiède pour cette jeune femme, et petit à petit elle sera une des premières à avoir l'honnêteté intellectuelle de voir où mène le marxisme dans ses applications, enfin dans les applications qu'elle a pu voir de son vivant.
On va revenir sur cette question mercredi prochain quand on va recevoir Robert Chenavier pour évoquer justement la question de la condition ouvrière et son rapport au marxisme. Je voudrais qu'on entende, parce que le temps passe, comme dirait Simone Veil, je voudrais qu'on entende un dernier texte de Simone Veil, extrait des Cahiers de Marseille, enfin on les a intitulés comme ça. On est dans l'hiver 41-42. Écoutez ce texte, et je voudrais qu'on évoque ensuite chez elle la question de la souffrance et de l'éventuelle vertu rédemptrice de la douleur. Écoutez.
Sentiment d'impossibilité, déséquilibre, situation où l'imagination qui modèle fictivement le passé, l'avenir et les objets lointains ne parvient pas à combler les vides. Elle essaie et ne peut pas. Faim, soif intérieure, élan empêché. Quand la souffrance est à un point où l'imagination qui fabrique des compensations est entravée dans son fonctionnement, oscillation intérieure entre le refus et l'acceptation, mouvement de l'âme sans objet, même imaginaire, vide imposé. Après longtemps, l'épuisement et la mort de certaines parties de l'âme s'en suivent. Comme du gaz, l'âme tend à occuper la totalité de l'espace qui lui est accordé. Un gaz qui se rétracterait et laisserait du vide, ce serait contraire à la loi d'entropie. Thucydide, chacun exerce tout le pouvoir dont il dispose. Chacun s'étend autant qu'il peut.
Chacun s'étend autant qu'il peut. Dans ce texte qui est tout à fait frappant, ce texte qui est très saccadé et haché, ce sont des notes. Ce sont des notes, là encore, elle n'avait pas le souci de les mettre en forme, ni d'être publiée.
Non.
Ces notes, elle évoque la question de la souffrance. Quand la souffrance, dit-elle, est à un point où l'imagination qui fabrique des compensations est entravée dans son fonctionnement. C'est cette idée de compensation. Est-ce qu'il y a, chez Simone Veil, dont on a vu qu'elle n'écrivait pas pour être lue, dont on a vu qu'elle était sincère mais qu'elle aimait la mise en scène, est-ce qu'il y a malgré tout chez Simone Veil l'idée que, en somme, l'idée catholique d'une vertu rédemptrice de la douleur, qu'en somme, on ne souffre pas pour rien? Sylvie Veil, qu'en pensez-vous?
Très sincèrement, je n'en sais rien.
Laure Adler.
Moi, je n'aurais pas la prétention de pouvoir répondre à cette question. Et vous avez pendant toute la semaine, Raphaël, des grands spécialistes de la pensée de Simone Veil qui vont sûrement y répondre. Moi, je voulais simplement dire, je ne crois pas que chez elle, la douleur était aimable. Je ne crois pas qu'elle ait cherché la douleur comme une sorte d'amant ou comme une sorte d'aimant. Je crois qu'elle voulait vivre, elle voulait comprendre le monde, elle voulait essayer d'apaiser le sort des plus opprimés, des plus humiliés. Elle voulait tendre la main, elle voulait essayer de faire le bien. Elle a été souvent mise à l'écart. Sa vie est un roman, et un roman vrai. Elle a été d'un courage incroyable. Vous parliez des Cahiers de Marseille qui sont bouleversants, qu'elle a rédigés donc juste avant de partir en bateau pour New York avec votre grand-père et votre grand-mère, Sylvie. Oui. Imaginez quand même le sort et le courage qu'il a fallu à une fille de cet âge-là, arrivée à New York, où tous les grands intellectuels français ont pu arriver en exil, où elle pouvait aller dans les bibliothèques, où elle pouvait aller enseigner à la New York University, où elle pouvait non pas se la couler douce parce que l'Occident était embrasé. Mais imaginez cette fille qui passe son temps dans l'antenne du général de Gaulle à New York pour essayer de repartir vers la France pour se faire parachuter, et où elle arrive et elle réussit, grâce à son condisciple Schumann, à partir pour Londres et donc à quitter New York et la quiétude de New York pour pouvoir travailler auprès du général de Gaulle. Quel courage, quel exercice d'admiration, mais on en a les bras, on en a le cœur serré de voir autant de courage intellectuel, autant de force psychique et autant d'opiniâtreté et d'entêtement dans les idées de générosité.
Le condisciple Schumann dont vous parlez, Laure Adler, c'est Maurice Schumann. C'est Maurice Schumann. Eh bien, écoutez, justement, pour clore cette émission en votre compagnie, on va entendre Maurice Schumann lui-même qui rend hommage à Simone Veil et qui revient sur les raisons de sa mort. Il soutient notamment l'idée qu'elle se serait laissée mourir par solidarité et, dit-il, par égoïsme divin. Écoutez.
Monsieur Maurice Schumann, ministre d'État chargé des affaires sociales, vous parle.
Ce que représente pour moi Simone Veil est tout entier contenu dans le mystère de sa mort. J'emploie le mot mystère au sens théologique du terme, car je n'ai hélas aucun doute. J'ai la conviction que Simone Veil s'est laissée mourir, par sympathie sans doute avec les victimes de l'occupation qui ne mangeaient pas à leur faim, avec ceux qui peuplaient l'univers concentrationnaire, mais aussi et peut-être surtout par une sorte d'égoïsme divin. Elle avait souhaité une mission en France occupée. Cette mission lui avait été refusée par son héroïque camarade de l'école normale, Cavaillès, qui lui avait fait remarquer qu'elle avait un physique trop reconnaissable et que, par voie de conséquence, elle pourrait nuire à ses compagnons. Cavaillès, comme vous le savez, devait très peu de temps après trouver la mort lui-même dans les rangs de la résistance. Or, Simone a toujours eu la conviction qu'elle ne trouverait la vérité pour laquelle elle souffrait que dans un instant d'extrême souffrance et d'extrême sacrifice. Sa philosophie, sa pensée sont résumées par une phrase à laquelle je songe très souvent. Je souffre jusqu'à en mourir de l'impossibilité de penser ensemble la perfection de Dieu, la souffrance des hommes et le lien entre les deux.
Un grand merci à toutes les deux. Merci à vous, Laure Adler. Merci, Sylvie Veil. Laure Adler, je rappelle que vous êtes écrivain et historienne. Vous avez notamment dirigé France Culture, où vous êtes chez vous, de 1999 à 2005. Et vous venez de faire paraître chez Actes Sud un livre sur Simone Veil, l'insoumise Simone Veil. Donc Simone Veil qui rejoint, après Hannah Arendt et Marguerite Duras, celle dont vous faites le portrait. Sylvie Veil, vous êtes la fille de André Veil, frère de Simone et donc la nièce de Simone Veil. Vous vivez entre Paris et New York, vous avez enseigné la littérature française et c'est de votre livre Chez les Veil, André et Simone, paru chez Buchet-Chastel. Un excellent livre, n'est-ce pas, Laure Adler, on peut le dire.
Oui, je voulais dire à Sylvie que j'avais été émue et bouleversée par votre livre, que c'est un livre d'écrivain, c'est un livre de poésie. Vous êtes donc poète comme votre propre tante et c'est un livre d'amour extraordinaire d'une fille pour son père.
Un joyau. J'aimerais vous laisser le mot de la fin, mais il faut que je conclue, on est un peu en retard. Je rappelle également, parce que c'est important et c'est l'objet de la semaine, les œuvres complètes de Simone Veil, on les trouve soit chez Quarto, donc chez Gallimard, sous la direction de André Deveau et Florence Delucy. Demain, et non pas mercredi, je recevrai Robert Chenavier, qui est philosophe et président de l'Association pour l'étude de la pensée de Simone Veil, qui viendra vous parler de la condition ouvrière et de l'engagement syndical de Simone Veil. Un grand merci à Anne Brissier, qui va nous accompagner toute la semaine à la lecture des textes. Merci également au service technique de la National Public Radio de New York pour ce duplex avec vous, Sylvie Veil, et à la technique à Paris aujourd'hui. C'était Clément Daté, à la réalisation Nathalie Salle, assistante Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Tristan Grenassia, Laetitia Cordonnier, Jennifer Murzo.